RCF. Direction le sud de la Drôme, dans un très beau village de Dieulfy, le très beau village de Dieulfy, village historique de Potier, pour y rencontrer un chrétien, maraîcher, philosophe, écrivain, vous remettrez dans le sens que vous souhaitez, et qui met ses efforts quotidiens dans la spiritualité du travail de la terre. Mathieu Yon, vous êtes notre invité, bonjour.
Bonjour.
On commence toujours cette émission par le début, et vous, votre début, il est en 1982, c'est ça ?
Ouais, c'est le 4 février 1982, à Pertuis. Et ensuite, après une petite excursion sur la côte atlantique, à l'âge de 2-3 ans, mes parents s'installent dans la Drôme, à Combeauvin. Mes parents louaient en fait une maison au milieu d'un hameau qui appartenait aux agriculteurs. Et donc, c'était au milieu des tracteurs, des hangars, des brebis, des champs de maïs et de noyers.
Est-ce qu'on peut dire que vous avez toujours plus ou moins habité quand même en campagne ?
Ouais, toujours, ouais. Alors, mes parents sont des néo-ruraux, mais moi, je suis un néo-paysan, mais je suis pas un néo-rural.
3 ans, vous nous l'avez dit, une scolarité qui se passe comment ? Vous êtes dans quel milieu ? Est-ce que c'est plutôt une famille chrétienne ?
Alors non, mes parents sont, je pense, sont ce qu'on appelle des 68ards, hein, c'est-à-dire vraiment, ils ont essayé de vivre en communauté. Mon père avait une maîtrise d'éco, mais en fait, pendant plusieurs années, il a passé un CAP de menuiserie, donc plutôt voilà, des tentatives de bifurcation, comme on dirait aujourd'hui, ou voire même de désertion, comme on dirait aujourd'hui aussi.
Donc, ni paysan, ni chrétien.
Ni paysan, ni chrétien, exactement. Plutôt en rupture même, par contre. Une forte présence de la spiritualité à la maison. C'est-à-dire...
Qui s'exprimait comment ?
Il y avait plein de bouquins de spiritualité. Alors, ça allait d'Arnaud Desjardins, que mon père a beaucoup suivi, qui avait un ashram en Ardèche, qui était parmi les premiers occidentaux à aller en Inde à la rencontre de sages et de maîtres hindous. Notamment un portrait qui nous a toujours accompagnés, qui a toujours été dans la cuisine avant tout le temps. C'était en fait un portrait du prophète Jérémie. Un très beau visage avec une barbe comme ça. Pour une raison que j'ignore, enfin, fait partie du décor depuis que je suis gamin, quoi.
Plutôt bon élève, plutôt calme, pas calme ?
Alors, plutôt le classique de mes bulletins, c'était « Mathieu a un fort potentiel ». Mais il doit faire des efforts.
Il ne s'en sert pas.
Ouais. Il ne s'en sert pas, voilà. Donc ça va, je m'en sortais toujours. Hein. Je n'ai pas redoublé, mais c'était jamais brillant. Et c'est à partir de la terminale où j'ai commencé à aimer l'école, en fait.
Plutôt calme ou pas ?
Moi, non, pas très calme.
Pas très calme.
Non, je suis devenu calme. Je ne pense pas que je sois un faux calme maintenant. Je pense que vraiment, je crois quelqu'un de tranquille. Mais pendant longtemps, je ne l'ai pas du tout été, en fait. Une certaine... très impulsif, voilà. Même des fois, j'aimais bien me bagarrer au collège. Voilà, c'est pas totalement parti, mais ça s'est canalisé, je dirais. L'agressivité, quelque part, c'est chercher le contact de l'autre aussi.
Donc, ouais. Exister.
Et donc exister, l'autre existe, moi aussi, ok, j'existe. On existe d'une manière un peu brutale, mais on existe quand même, quoi.
À 17 ans, il vous arrive une petite histoire assez singulière qu'on peut raconter. Vous êtes en voiture sur l'autoroute avec votre père et vous passez devant le fameux rocher de Roquebrune.
Ouais. Je le trouvais très beau, déjà, ce rocher un peu rouge comme ça, ocre. Je trouvais qu'il était assez étonnant. Je crois que je le dis à mon père.
Donc vous sortez de l'autoroute, en fait.
Ouais, ouais, c'est ça. En fait, je dis à mon père, tiens, c'est beau et tout. Et donc mon père dit, bah tiens, allons-y, on sort l'autoroute, on va se balader. Et là, il dit, bah je crois qu'il y a un ermite qui habite dans ce rocher, mais je sais pas où. Donc frère Antoine. Et alors là, je sais pas, dans cette journée de marche à chercher frère Antoine, je sais pas, j'ai une espèce d'illumination, je sais pas ce qui se passe. Mais j'ai vraiment la sensation de rencontrer frère Antoine.
Sans le voir.
Sans le voir. Donc, je sais pas quoi il ressemble, je sais pas quel âge il a, mais j'ai vraiment le sentiment de le rencontrer. Donc après, j'achète des bouquins de frère Antoine, une bouffée d'ermite, je lis des bouquins, mais je sais toujours pas quel âge il a. J'apprends qu'en fait, il est plus au rocher. Et c'est du coup 4 ans plus tard, je crois, en fait, un collègue de boulot de mon père qui habitait à Dieulfy me dit, ah tiens, au fait, tu t'intéresses toujours à frère Antoine parce que frère Antoine, en fait, il habite à Dieulfy dans une petite cabane, 40 kilomètres de chez mes parents, quoi.
Voilà. Et pourquoi ça vous intéresse à ce moment-là ? Parce que finalement, vous n'avez pas de lien vraiment avec la religion.
Ouais, mais alors, pour le coup, la bouffée d'ermite, ça m'a beaucoup marqué comme bouquin. En fait, frère Antoine, du coup, moine cistercien, famille bretonne, très catholique, pas du tout fermé. C'est-à-dire, en fait, il découvre l'Inde. L'Inde est hyper important pour lui. Il découvre la spiritualité hindoue. Il rencontre Vinoba, donc un disciple de Gandhi. Il rencontre, tout un tas de sages hindous.
Et vous vous dites, ça doit être quelqu'un sympa à rencontrer, quoi.
Ouais, peut-être. Je sais pas, c'est plus irrationnel que ça, hein. C'est plus, ouais, que sympa. Et d'ailleurs, jusqu'à la fin, hein, j'ai toujours pas d'explication rationnelle. Hein,
vous avez donc 21 ans quand vous allez le voir pour de vrai, vous y allez à pied.
Ouais.
Ça aussi, c'est important pour vous de dire je prends mon sac à dos et je prends le temps d'aller à la rencontre de.
Ouais, bah parce que ça fait quand même plus de 4 ans que j'avais envie de le rencontrer, donc je me dis bon, bah, on n'est plus à quelques jours près. Hein. Autant faire ça bien, une sorte de pèlerinage, quoi. Ça me parle beaucoup, l'idée de prendre son temps et de rencontrer quelqu'un ou quelque chose de sacré. En fait, je crois beaucoup au fait que c'est le chemin qui fait le but, en fait. J'y vais comme ça, et en fait, il fête ses 80 ans ce jour-là. Et non seulement ça, mais il a préparé ses affaires parce que du coup, le lendemain où j'arrive, en fait, le voir, il quitte l'ermitage de Diolfi dans lequel il était pendant 5 ans.
Une sorte de rendez-vous, un peu, quoi.
Ah ouais, là, je trouvais ça assez drôle parce qu'à la fois, le temps était long, de 17 ans à 21 ans, ça paraissait assez aléatoire. Mon père qui me dit, tiens, il habite là, j'y vais de façon assez aléatoire aussi à telle date, à pied. Bon, bah, en fait, ça semblait être assez bien timé parce que le lendemain, il s'en va, quoi. Et donc, on passe la soirée ensemble. Et moi, je lui dis que je vais arrêter ma licence de philo là à la fin de l'année. Et il me dit, bah, si ça t'intéresse, on peut partir en Inde, je te fais découvrir l'Inde. Mais en fait, au début de la rencontre avec Frère Antoine, mes parents l'ont très très mal vécu. J'en parle pas non plus dans le bouquin. Ça m'a surpris parce que pourtant, Frère Antoine était très imprégné de spiritualité hindoue et eux, mes parents aussi.
Ça peut se comprendre aussi. Quand
ouais, ouais.
On a un enfant qui dit « je vais partir en Inde avec quelqu'un que j'ai rencontré ». Voilà. Évidemment, les parents ils peuvent que s'inquiéter. Alors déjà, à cette époque, ils s'inquiétaient peut-être moins qu'aujourd'hui, mais forcément.
Complètement, ils s'inquiétaient. Ouais. Puis j'ai arrêté mes études. Donc pour eux, peut-être qu'il y avait quelque chose de
ça faisait beaucoup,
qu'il va
quoi.
Faire sa vie.
Ouais. Vous en reparlez avec eux, ça, parfois ou pas?
Ouais, ouais, parce qu'après, quelques années plus tard, en fait, ils ont appris à le connaître et ils l'ont appris à l'apprécier. Et en fait, quand il était à Diolfi, à la maison, mon père venait souvent voir Frère Antoine. Passer du temps avec lui, enfin voilà, donc la relation a vraiment évolué. Mais il y a eu ce démarrage un peu, ouais, un peu...
Chapeau de roue.
Un peu chapeau de roue, exactement.
on va se retrouver dans un instant, vous êtes venu avec deux pauses musicales. La première pause musicale, vous avez choisi la très belle chanson de Benjamin Biolay avec Ton héritage, dont on va écouter un extrait. Pourquoi cette chanson ?
Eh ben, bah la question de la transmission, voilà, c'est important pour moi, transmission à ses enfants, transmission des traditions, enfin voilà, c'est quelque chose qui est devenu important pour moi au fil du temps, la question de la transmission, transmission agricole,
transmission spirituelle, Frère Antoine aussi peut-être.
Voilà.
On en reparle dans un instant, on écoute la chanson.
Si tu aimes les soirs de pluie, mon enfant, les ruelles de l'Italie et les pas des passants, l'éternelle litanie des feuilles mortes dans le vent qui pousse un dernier cri, cri mon enfant. Si tu aimes les éclaircies, mon enfant, prendre un bain de minuit dans le grand océan. Si tu aimes la mauvaise vie, ton reflet dans les temps. Si tu veux tes amis près de toi tout le temps. Si tu pries quand la nuit tombe, mon enfant, si tu ne fleuris pas les tombes, mes chéris les absents. Si tu as peur de la bombe et du ciel trop grand. Si tu parles à ton ombre de temps en temps. Si tu aimes la marée basse, mon enfant, le soleil sur la terrasse et la lune sous le vent. Si l'on perd souvent ta trace dès qu'arrive le printemps. Si la vie te dépasse, passe mon enfant. Ça n'est pas ta faute, c'est ton héritage. Et ce sera pire encore quand tu auras mon âge. Ça n'est pas ta faute, c'est ta chair, ton sang. Il va falloir faire avec ou plutôt sans.
Témoin, quand la foi se raconte.
Toujours dans notre émission sur RCF en compagnie de Mathieu Yon, un maraîcher chrétien dans le département de la Drôme, à Diolfi, qui a écrit un ouvrage récemment. On s'est quitté juste avant cette première pause musicale avec un événement très fort qui lui est arrivé dans sa vie, c'est la rencontre de Frère Antoine. Vous avez 21 ans, vous souhaitez arrêter vos études de philosophie, vous souhaitez partir en Inde avec Frère Antoine. Pour l'instant, vous n'êtes pas chrétien encore. Un autre événement important, à peu près au même âge, vous avez un ami qui part avec des prêtres en Amérique du Sud et qui vous dit ben, « Tiens, Mathieu, si tu veux, tu viens avec nous ». Ça fait un peu beaucoup peut-être aussi pour les parents. Mathieu part en Inde, Mathieu part en Amérique du Sud avec des frères ermites, avec des prêtres de l'autre côté. Alors que votre famille, on le rappelle, n'est pas du tout chrétienne.
Ouais. Mes parents donc, sont 68 ans, mais du côté de ma mère, donc mes grands-parents, dont je parle dans le bouquin, là, oui. Donc je suis très proche en fait, eux sont carrément, eux, anticléricales. C'était des instits, laïcars.
Vous dites, j'aimais particulièrement l'odeur de leur appartement, une odeur de toile cirée, de café soluble, d'eau de Cologne, bon marché, de laque pour les cheveux. Rien n'avait de la valeur chez eux, ni les fauteuils, ni la télévision, ni la table en pin, ni les chaises, pas même les tableaux accrochés au mur que mon grand-père peignait. Mais il y avait quelque chose d'essentiel que je retrouvais à chaque fois que j'allais le voir, quelque chose d'inestimable, de l'amour et du temps.
Ouais, c'est vrai qu'il y a... C'est pour ça que je mettais en parallèle, pour moi, mes grands-parents donc, et frère Antoine.
Alors du coup, le lien avec le frère Antoine, qui pourrait ne pas être évident entre vos grands-parents et frère Antoine, finalement l'est, puisque lui aussi, par la répétition quotidienne de ce qu'il faisait, il vous a enseigné aussi cet amour du temps,
ouais.
Du temps perdu, vous dites, à des moments.
Ouais, ça, c'est le temps perdu, c'est... Ah ouais, j'ai pas dit, mais adolescent, enfin, je voulais devenir clochard, en fait. Donc, mon stage en troisième, je l'avais fait à l'étape, c'était un centre d'accueil, oui. D'hébergement, là, dans Valence.
Oui.
Ils avaient dit oui, mais ils trouvaient ça un peu bizarre, quelqu'un en troisième se retrouve, je sais pas, de 20h à minuit, je sais plus les horaires exactement, à accueillir les sans-abri et autres. Et pour moi, c'est, je sais pas pourquoi, c'est hyper important, le temps perdu.
Finalement, cette 21e année, elle est quand même un peu clé aussi chez vous, puisque donc le voyage en Amérique du Sud, frère Antoine, avec qui vous décidez de partir en Inde, vous abandonnez vos études de philosophie, ou on peut le dire maintenant aussi, vous avez fait la rencontre de Simone Veil.
Ouais.
Très important pour vous aussi, ouais. dans votre parcours. Et puis vous avez une espèce de volonté de rejoindre un monastère quelque part, alors que vous n'êtes toujours pas baptisé.
En première claque pour moi, je découvre, moi qui suis d'un naturel rebelle toujours, anticlérical à l'époque, je découvre que l'Église a une portée, un souffle révolutionnaire en fait. Mais c'est pas encore le moment. Par contre, après la rencontre de frère Antoine, effectivement là... Je vais voir Jean Roche et je lui dis, voilà Jean, je demande le baptême. Et là, il y a du coup 2 ans de catéchuménat. Dans ces 2 ans de catéchuménat, il y a 6 mois en Inde, 4 mois d'ermitage au rocher de Roquebrune, et ensuite 6 à 8 mois dans le monastère, jusqu'au baptême à la veillée pascale dans le monastère là, à Paris, à l'église Saint-Gervais.
Vous allez en Inde avec frère Antoine, du coup.
Ouais, on part en Inde ensemble. Alors là, c'est vrai que c'est des odeurs du monde partout. C'est des sons, des cloches. Alors là, je découvre aussi, c'est pas comme l'Amérique du Sud, mais je découvre aussi le sacré omniprésent. Donc, je prends une claque. Mais alors, du coup, première étape dans le train. Pourtant, c'est un grand classique. Hein, apparemment, c'est marqué dans tous les guides. Ne buvez pas un thé qu'on vous offre dans le train. Faites attention. Au-delà de la question que l'eau est pas forcément bonne. Et là, en plus, on a amené plein d'argent pour un ashram de Gandhi où frère Antoine allait très souvent.
Et là, vous prenez ce thé.
Et on boit ce thé, on discute
qu'on
et tout.
Qu'on vous offre gentiment dans le train.
On nous offre gentiment dans le train. Et effectivement, je me souviens en plus très bien de ces jeunes qui nous l'ont offert dans le sleeper class, là, en Inde. Des jeunes plutôt sympathiques. Donc là, c'est un somnifère, en fait. Donc en fait, on avait 5000 euros, donc je sais pas, 60 000 roupies dans un petit sac comme ça. Mais ils ne le savaient pas, je crois pas, hein, qu'on donnait à l'ashram de Gandhi pour des opérations médicales et autres. Et donc, on se réveille le lendemain, plus de sac, plus rien. Le quai d'une gare que je sais plus lequel, le train est vide, c'est une petite ville de l'Inde, je sais pas laquelle. Je prends frère Antoine, je le traîne sur le quai de la gare, et là, les Indiens, ils comprennent vite ce qui nous arrive. Ils nous prennent dans une voiture, là, par contre, ils sont aux petits soins, hein, les Indiens, et ils nous emmènent à l'hôpital, et on nous fait une injection de je sais pas quel produit. Et voilà, donc, donc 24 heures en Inde, drogué, dépouillé, mais,
Symboliquement,
c'est le dépouillement et là on arrive à l'ashram de Gandhi, le disciple de Gandhi Vinoba dit bon bah c'est comme ça, ça c'est le côté indien, tu sais, il devait peut-être en avoir plus besoin que nous, ces voleurs. Voilà, t'es là, ok. Tu en tant qu'occidental déjà, tu comprends pas la logique.
Lui il est pas en colère.
Il dit peut-être qu'ils en avaient plus besoin que nous. Je dis ouais d'accord, mais on se dit bon bah en fait la meilleure manière de plus être volé, c'est de plus rien avoir à voler.
Donc vous vous retrouvez finalement juste après être arrivé en Inde complètement dépouillé,
ouais.
Habillé en moine.
Ouais.
Gandhien, ouais. Avec le baluchon et errant pendant combien, 4 mois, c'est ça?
Ouais, 4 mois, voilà. Et après, je suis allé dans un ashram où je suis retourné chaque année, après avec Julie, mon épouse, où vraiment un ashram qui m'a beaucoup, beaucoup marqué, avec un maître aussi qui m'a beaucoup marqué, que frère Antoine a connu. L'Inde m'a aidé à rencontrer le Christ, en fait, très clairement. L'Inde m'a rapproché du Christ.
Vous êtes venu avec une deuxième pause musicale, Dark Rooms.
Alors, c'est la musique d'un film.
Overwhelmed. Voilà. Bouleversé, je crois.
Voilà, Ghost Story, qui n'est pas un film extraordinaire, mais là, je trouve que la chanson est puissante. Et cette chanson et cette histoire de ce film, en fait, parlent d'un rapport au temps qui ne serait pas linéaire, en fait. Quelque chose d'assez simple, mais d'assez troublant, c'est qu'en fait, les morts peuvent être présents. Frère Antoine, par exemple, pour moi, et quand je prie, je médite, il est présent. Le Christ, il est présent. C'est vécu comme une relation vivante. Ça bouleverse un peu quand même la notion de notre rapport au temps, légèrement.
Eh bien, on écoute un extrait de cette chanson et on se retrouve juste après. Are you running late? Did you see too much? All the awful dreams felt real enough. Did you know her then? She waking up. Did she die in the night? Leave you alone.
La foi se raconte dans Témoins.
Toujours dans notre émission en compagnie de Mathieu Yon, vous l'aurez compris, une rencontre bouleversante avec frère Antoine, avec l'Inde, où il est allé chaque année, ensuite avec son épouse également, pour qu'on lui parle du Christ. C'est ce qu'il nous a dit lui-même, l'Inde l'a rapproché du Christ, on n'a pas essayé là-bas de le convertir à quoi que ce soit. Quand vous êtes revenu ensuite en France, vous avez trouvé une épouse, vous nous l'avez dit, donc c'est Julie, hein, votre
ouais,
femme,
Julie.
C'est ça. Et puis vous avez pris avec vous frère Antoine.
Donc Julie venait de perdre sa mère du Covid. Donc là, voilà, je le raconte dans le bouquin, c'était un moment très dur.
Un moment très difficile.
Ouais, très difficile.
Là, vous reparlez de la dignité, de ce qu'on a oublié peut-être dans cette
période.
Ouais,
voilà, sans trop m'étendre sur cette question, c'était le moment où on interdisait, au tout début de la première vague de Covid, on interdisait carrément aux proches, en fait, d'être auprès de leur mère, pour des raisons sanitaires. Et alors après, ils sont revenus sur ce type de décision, mais pour le coup, Julie en a fait les frais.
C'était trop tard. Ouais.
Et je me suis dit, oulala, qu'est-ce que ça dit de notre société? On devrait évaluer le développeur ou non d'une société. Est-ce qu'elle a évolué ou non à la manière dont elle traite les personnes âgées? Et frère Antoine, là, ça fait 2 ans qu'il est en maison de retraite parce qu'il est tombé à 95 ans dans la grotte. Il s'est un peu fait mal. Du coup, ils
ont entre 25 ans
80,
dans la grotte.
Ouais.
Ouais, c'est quand même...
Et là, 95 ans, sans eau courante, ni électricité, sans nourriture non plus, il mangeait ce qu'on lui emmène. Donc là, il se fait mal, il tombe et quelque part, ses proches là dans le Var, et ils le placent en maison de retraite. Une maison de retraite, bon, ni bien ni mal, j'ai envie de dire. J'arrive pour aller le voir là entre 2 vagues de Covid. Et frère Antoine, il a 2 sacs plastiques, il a préparé ses affaires et il me dit « Bon, je peux venir chez toi ?» Je dis « Écoute, je sais pas, pourquoi pas ?» Moi, je suis plutôt partant en fait. Hein. Sauf qu'en fait, il est entouré dans la maison de retraite de gens qui perdent un peu la tête. Et souvent, les personnes âgées veulent partir, mais imagine qu'en fait, que quelqu'un les attend dehors, mais c'est pas vrai en fait. Donc frère Antoine, il va dire ça à la directrice de la maison de retraite. Et la maison de retraite vient me voir, elle pense qu'en fait qu'il disjoncte. Et je lui dis, mais si, en fait, moi je veux bien l'accueillir et tout. Donc là, elle me regarde, comment ça, vous voulez bien l'accueillir? On temporise un peu, on se donne 15 jours, et c'était très bien, pour aussi asseoir sa décision, c'est-à-dire que ce soit pas un coup de tête. Avec le recul, je mesurais pas un peu ce que ça signifiait d'accueillir quelqu'un qui va finir sa vie à la maison, qui est pas de sa famille en plus. Donc on n'avait pas de droit légal, Donc 15 jours après, je vais le chercher, donc c'est l'évasion de la maison de retraite, en plein Covid. Alors en plus, vous imaginez le délire avec les mesures sanitaires, les gens nous regardent, mais vous êtes fous de sortir un personne âgée dans ces conditions.
On ne pourrait plus jamais revenir.
Ouais, quelque part, ouais. En fait, ils nous ont dit, si vous passez la barrière, frère Antoine, on ne lui garde pas sa chambre. Hein. Pour des raisons sanitaires, on ne le reprend pas, quoi. Si ça se passe mal, la maison de retraite, ce n'est pas son problème, quoi. Et donc, il passe un an à la maison. T'es très, très fort. Ma femme est infirmière, par chance. Après, quand ça se complique un peu, du coup, on est accompagné par un cabinet d'infirmier libéral. On se fait accompagner aussi par l'équipe de soins palliatifs de Cré. Jusqu'à la fin.
C'est-à-dire quel âge il avait?
98. C'était une chance pour lui. Je pense que c'était une chance pour nous. Enfin, c'était vraiment
un cadeau réciproque.
Un cadeau réciproque, ouais.
Alors, dans les pièces du puzzle que vous réunissez encore en ce moment, il y en a une dont on n'a pas encore beaucoup parlé, mais c'est celle de votre métier, maraîcher.
Ouais, en fait, dans cette recherche spirituelle très forte, qui est toujours très forte, mais qui était au début peu enracinée, j'ai envie de dire, c'est-à-dire très ascendante, il me manquait quelque chose. Et au-delà de la question économique, aujourd'hui je vis correctement, voilà, j'ai pas beaucoup de besoins matériels, mais mon métier me rémunère. Et je trouve ça extrêmement fort, en fait, de se sentir en lien avec le temps, les saisons, les équinoxes, les solstices, enfin, mais les plantes, donc, sont reliées à la lumière du soleil, en fait. Donc c'est ça leur carburant, en fait. Quelque part, dans l'agriculture, les jours qui raccourcissent et qui rallongent, c'est très très concret, en fait. Il a beau faire 30 degrés, si les jours sont extrêmement courts, les plantes poussent très très peu.
Vous dites dans votre livre, justement, au chapitre « La spiritualité du travail », dans mon champ, je suis le chef d'orchestre qui doit veiller à l'équilibre et à la répartition des différentes variétés de légumes comme s'il s'agissait d'une diversité d'instruments de musique. Mon plan de culture, avec sa cadence, ses rotations, ressemble d'ailleurs à une partition de musique avec ses croches, ses pointes, ses noirs. Pourtant, si j'organise le positionnement des notes et des instruments sur la partition, la musique qui en jaillit ne vient pas de moi.
Voilà, moi je suis producteur, un producteur, c'est pas faux. Et peut-être il y a de l'invisible aussi qui est producteur,
qui produit,
quelque part, oui. Qui produit.
Et là, sur la spiritualité du travail, vous rejoignez particulièrement Simone Veil.
Ouais, voilà, vraiment, elle a travaillé, alors pas très longtemps, hein, on peut pas lui en vouloir, elle est morte à 34 ans, mais elle a bossé en usine, et elle a bossé aussi dans les champs, chez un paysan ardéchois, qui était viticulteur, et elle a bossé effectivement dans les champs, je sais pas, un mois, deux mois, et elle en a tiré des très très beaux textes. Où elle a, je trouve, très bien saisi ce que pouvait être la beauté du travail paysan, qui est profondément spirituel, en fait. Pour moi, c'est pas un hasard, en fait, au-delà de la question purement conjoncturelle, si dans l'évangile, il y a autant d'images, de paraboles qui parlent de la vie des champs, le blé, le grain de sénévé, cette plante qui pousse, semblable au royaume des cieux, mais qu'on oublie et qui pousse de jour comme de nuit. Vraiment, oui, ça, moi, là où je vous parle, mon jardin, il pousse, là, actuellement, où je vous parle. Et que j'y pense ou que j'y pense pas, les légumes, la mâche, etc., ça pousse, en fait. Ils sont là, ils font leur travail, en fait.
Et qu'on y soit ou pas, ils
ouais,
poussent.
Ils poussent. Donc voilà, je pense que le monde paysan a un cadeau qui leur a été fait là, et faut qu'ils l'entretiennent.
Connecté au vivant, à une époque où on est peut-être un peu déconnecté du vivant et un peu trop connecté à d'autres choses.
En fait, si on continue dans nos activités économiques quotidiennes de plus ou moins détruire le monde, en se connectant au vivant de manière cosmétique le week-end, en fait, ça va pas suffire.
Vous dites que le langage pourrait détenir les clés pour résoudre ou soigner bien des maux.
Ouais, pareil dans cette pratique de la prière et de la méditation. Parmi les choses que j'ai perçues, c'est la question du temps et la question du langage. Non, il suffit pas d'inventer des jolis mots pour que ce soit du langage. En fait, le langage, c'est autre chose, c'est insaisissable. Christian Bobin le dit très bien. Hein. Pour moi, d'une certaine manière, la mort n'a pas d'emprise quelque part sur ce langage.
Sur ce langage. Et avec l'imprévu aussi. Vous disiez tout à l'heure, avec frère Antoine, on était un peu comme ça, un peu allez hop, cache-pistache, on y va. Mais pas que, parce qu'avec votre père aussi, quand vous partiez en randonnée, vous reveniez un peu par des chemins de traverse. Ça vous faisait gagner finalement pas beaucoup de temps, plutôt des égratignures à l'arrivée. Mais ça vous a fait aussi découvrir quelque chose.
Complètement. Ce livre a aussi été un peu thérapeutique pour moi. On partait sans arrêt le week-end et d'autres. Et en balade, et le but, c'était presque devenu une tradition. C'est-à-dire, il n'était pas possible qu'on finisse pas une balade en prenant pas un chemin de sanglier à travers les ronces, en disant « Ouais, mais on va couper par là !» Mais c'était génial, quoi. On tombait sur des ruines dans les bois, des fois. Donc j'ai des souvenirs un peu magiques comme ça. Mon père, on tombe sur vieille ruine au milieu de la forêt. Mon père dit tiens, on va voir s'il y a des pièces anciennes, etc. Des pièces. Et du coup, mon père tombe comme ça sur un bord de fenêtre, sur une pièce de Louis XVI.
Donc, la magie, l'imprévu, en fait, le fait de dire ben, un petit chemin de traverse de temps en temps, ça fait pas de mal.
Exactement, j'ai un chemin de traverse, non seulement ça fait pas de mal, mais ça rend vivant.
Vous terminez votre livre avec un passage où vous laissez un message à vos enfants.
Voilà, alors c'est un message qui se veut un petit peu dramatique au sens où mettre un peu l'enjeu de la situation, mais de manière poétique. L'idée de leur laisser un témoignage, de leur laisser une trace. Et c'est vrai que moi, je suis complètement anachronique là, sur ce sujet. Hein. J'ai pas de portable et j'ai une énorme méfiance à l'égard du numérique.
Vous n'avez plus de portable ?
J'ai plus de portable depuis
pas de
un
portable,
an.
Hein.
Non, j'en ai plus. Enfin, j'en ai eu sporadiquement que je perdais tous les 6 mois. Au bout d'un moment, je dis bon, laisse tomber, t'arrêtes pas de le perdre. J'ai eu plein de numéros que je perdais, voilà. Mais dès le départ, en fait, quand les portables sont arrivés dans les années 2000, là, que, je sais pas pourquoi, dès le départ, c'est un objet qui pour moi a été intrusif. Mais vraiment, tout de suite. Avec mon petit frère, on avait même à l'époque fondé le GRAP. Ça n'existait pas, ça n'existait qu'entre nous. Hein. C'était le groupe révolutionnaire anti-portable. Donc, dans les années 2000, et dès le départ, pourtant, ce truc-là qui semble maintenant, c'est même pas un smartphone, hein, qui semblait inoffensif à l'époque, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc où on est contactable en permanence, qui est partout, je suis aux toilettes, je sais pas, dans une église, partout. Et donc, j'arrive toujours pas à m'en remettre.
Et c'est partant de ce constat que vous laissez ce message en fait à vos enfants.
Ouais, à mes enfants pour leur dire voilà, en leur parlant de ce monde numérique qui est en train d'advenir, mais que les champs de blé seront toujours là, si ce n'est en vrai dans les champs, ils seront toujours là dans votre mémoire et que tant qu'ils sont là dans votre mémoire, on pourra retrouver ce feu sacré quelque part qui pour moi est associé à un champ de blé. Il suffit d'avoir le souvenir du feu pour retrouver comment on fait le feu.
Pour terminer cette émission, Mathieu Yon, qu'est-ce qui fait que chaque matin, vous allez vous lever ? Qu'est-ce qui fait que vous avez écrit ce livre ? C'est votre deuxième, troisième, celui-là, là, celui dont on parle ?
C'est le premier un peu moins confidentiel, mais c'est le troisième en vrai.
Notre lien quotidien, donc Mathieu Yon, maraîcher aux éditions Nouvelle Cité. Qu'est-ce qui fait que chaque matin, vous allez... remettre votre vêtement de travail, retourner au champ avec la même foi, avec la même vigueur et sans la violence.
C'est l'imprévu.
C'est l'imprévu.
C'est vraiment l'imprévu parce que on ignore tout de l'avenir et c'est pas angoissant maintenant en fait, c'est plutôt joyeux en fait. C'est cette ignorance du lendemain et voire même de l'instant d'après est devenue quelque chose de très joyeux.
Est-ce que l'imprévu parfois ça peut être un rendez-vous?
C'est même souvent un rendez-vous.
Comme ça vous est arrivé plusieurs fois.
C'est même souvent un rendez-vous, en fait. C'est là où, c'est quand je dis c'est l'imprévu, il manque l'autre partie maintenant, qui est aussi le quotidien et le rituel. C'est-à-dire que mon métier de maraîcher est très ritualisé. Hein. C'est souvent les mêmes gestes qu'on refait. Et la pratique de la prière ou la méditation est aussi, pour moi, assez quotidienne et ritualisée. Donc c'est assez paradoxal. J'ai découvert, ou j'ai l'impression d'avoir compris, que pour vivre pleinement l'imprévu, il faut du quotidien. Alors qu'autrefois, je considérais que le quotidien était une entrave à l'imprévu, à la nouveauté. C'est à l'intérieur d'un temps ritualisé que l'imprévu émerge et qu'on peut vraiment le goûter. Sinon, en fait, on ne le goûte pas. En fait, il peut arriver des choses imprévisibles et belles, mais on n'est pas vraiment là pour les goûter. Et ce cadre quotidien, de mon métier de maraîcher, par exemple, me rend disponible à cet imprévu.
Mathieu Yon, vous étiez notre invité sur RCF. Merci beaucoup.
Merci à vous.
À bientôt, au revoir.